Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Mindstep. Aujourd'hui, nous recevons Pierrick Thibault. Nous allons parler des méthodes agiles et comment elles peuvent s'appliquer dans d'autres entreprises que celles qui développent des logiciels, là où les méthodes agiles sont nées. Avant de commencer, je voulais envoyer un grand merci à Anne-Claire M, qui a laissé un message sur la chaîne iTunes de Mindstep. De jolies rencontres et de l'énergie qui fait du bien. C'est génial d'entendre toutes ces personnes qui savent goûter le bonheur et en font profiter les autres. Merci. Un grand merci à toi, Anne-Claire. Ça fait du bien de lire ces messages. Et en plus, ça augmente la visibilité du podcast. Donc, un double merci à toi. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur. Et tout de suite, nous retrouvons Pierrick pour parler d'agilité. Salut Pierrick.
Salut Johanna.
Alors aujourd'hui, on va parler d'agilité. Alors pas forcément agilité du corps, mais des méthodes agiles, c'est comme ça qu'on les appelle ?
Ouais, c'est comme ça qu'on les appelle dans le monde du développement logiciel.
D'accord, et on va explorer toute l'histoire de l'agilité que tu connais par cœur, bien sûr. Mais avant, j'aurais besoin que tu nous expliques qui tu es, d'où tu viens.
Alors moi, je suis Pierrick Thibault, je suis nantais, j'ai deux enfants, je suis créateur de la société Agile Garden, après 10 ans de développement logiciel, à peu près à tous les postes, développeur, concepteur, chef de projet, directeur d'une petite plateforme de développement sur Nantes. Donc voilà, depuis 2011, j'ai décidé de me dédier entièrement à l'accompagnement d'équipe sur ce thème de la mutation agile, on peut appeler ça comme ça. Donc initialement sur le terrain du développement logiciel, mais aujourd'hui ça touche à peu près à tous les sujets. Il n'y a pas de limitation.
Alors tu peux peut-être nous expliquer ce que sont les méthodes agiles ?
Alors les méthodes agiles, la naissance elle est très spécifique au monde du développement logiciel, mais finalement cette histoire du développement logiciel elle est transposable dans plein d'autres domaines. L'origine c'est, si on retrace rapidement l'histoire du développement logiciel, au début on a créé les premiers, tout ce qui est MS-DOS, les premiers systèmes d'exploitation.
Ah, je me rappelle.
C'était les systèmes blancs sur fond noir où ouais. On tape des commandes.
Avec la petite flèche en début de ligne.
Ouais, avec la petite flèche en début de ligne, exactement. C'est ces premiers logiciels qui étaient merveilleux à l'époque, hein, ont été développés en gros dans des garages par un nombre très limité de personnes, parfois une seule personne, et donc pas de méthode. Donc ou une méthode à l'arrache, quoi.
Terrain vierge.
Voilà, un terrain vierge, donc pas de méthode de travail, en gros, enfin simplement la méthode de celui qui prend en main le sujet et qui fait avancer. Après, quand on a commencé à être un peu plus exigeant en tant qu'utilisateur des outils informatiques, la complexité a augmenté, donc on n'était plus à même de se satisfaire de ce genre d'interface homme-machine. Les logiciels étaient plus gros, on a commencé à créer les premières suites Office, traitement de texte, etc. Ça commence à devenir plus conséquent. Pour un ordre d'idée, MS-DOS c'est 50 000 lignes de code et aujourd'hui la moindre suite Office c'est des millions de lignes de code. On n'est pas du tout sur le même niveau de complexité. Et dans ce chemin-là, on est passé par un mode un peu industriel. Années 70-80, on a commencé à se dire, bon, bah, pour faire des bons logiciels, on ne peut plus le faire tout seul, il faut être en équipe. Donc on va commencer à apporter un peu de méthode dans notre travail. Donc les méthodes, c'était en gros, on décrit notre besoin, ensuite on décide comment on va le faire, et puis ensuite on fait, ensuite on teste, ensuite on met à disposition des utilisateurs du logiciel. Voilà en gros ce qu'on appelait les cycles en V, en cascade, enfin il y a eu plein d'évolutions de ces modes de travail-là. Et moi quand je suis arrivé dans le monde du travail année 2000, il y avait un super poster dans mon bureau avec un cycle tellement compliqué que j'aurais pas pu le comprendre et je pense que j'ai sonné un petit peu autour de moi, personne ne le comprenait dans le bureau dans lequel je travaillais. On est arrivé en fait, par les dysfonctionnements constatés de projet en projet, à réagir petit à petit par du plus 2, plus 2, plus 2. Et on est arrivé avec des processus très très lourds, un nombre de rôles dans les projets impressionnant.
Je comprends pas ce que ça veut dire du plus 2, plus 2, plus 2.
plus de documentation, plus de rôles.
Ah, des d'accord. Projets. Moi, je voyais plus le chiffre 2.
Ah oui. Alors, je ne sais pas si ça fait pas deux par deux, mais en tout cas, on est arrivé à un très grand nombre de choses en termes de documentation, d'étapes du process, de rôles dans les équipes. Bah, ce qui a entraîné un peu une. À chaque fois qu'on dit oui, comme ça va pas, il faut écrire une doc en plus, puis tout le monde disait oui, enfin, c'est assez naturel en fait. Sauf qu'à la fin, on arrive à quelque chose qui perd complètement son sens. Donc je suis arrivé dans ce monde-là, moi j'ai fait de la conception pour des logiciels où on devait écrire une série de 7 diagrammes qui servaient au final à personne. Les développeurs les lisaient rapidement et puis dès qu'ils commençaient à créer du code, ils faisaient complètement autrement parce que la réalité du développement est complexe et donc il faut s'adapter et en fait les prises de décision se font en faisant. En fait. Donc voilà, ça c'est le monde dans lequel on a évolué et pendant cette période-là, donc il y a une prise de conscience qui s'opère où effectivement des personnes comme moi qui regardent ce schéma ils disent c'est pas possible de travailler comme ça. Personne ne comprend comment on travaille, c'est pas possible. Des équipes ont années 90, des équipes ont testé des choses dans leur coin, sur ce constat-là. Et puis, ils ont mis en place de manière très pragmatique et empirique, c'est-à-dire qu'on essaie de fonctionner autrement. On met en place des choses, et puis on regarde ce que ça donne, et on adapte. Et ils sont arrivés à créer ce qu'on appelle aujourd'hui les méthodes agiles. Alors, pour dire des gros mots, c'est des méthodes qui aujourd'hui s'appellent Scrum ou Kanban, issues du Lean. Et c'est Lean Manufacturing, c'est tout ce qui est Toyota, les méthodes industrielles. Qui comptaient des sources d'inspiration pour ces gens-là. Et on arrivait à des quêtes qui font encore référence aujourd'hui.
Mais en fait, ils ont réussi, parce qu'a priori, la facilité pour votre mode de fonctionnement, c'est d'aller dans les process. Et ils ont réussi à un moment à prendre tous ces process et à les simplifier pour en faire des méthodes comme le Scrum ou le Kanban.
Exactement. Ils l'ont fait de manière empirique, c'est-à-dire que comme ça ne fonctionne pas, on va essayer de faire autrement. Alors, ils ont tout mis de côté. Ils ont commencé par faire... à revenir un peu à une méthode à l'arrache en disant comme c'est trop compliqué on va faire beaucoup plus simple et puis à rajouter des petites choses petit à petit mais en étant très vigilant à pas engraisser le fonctionnement de l'équipe. Donc on est arrivé à des cadres assez minimalistes et en gros ces cadres là comme Scrum par exemple si on enlève un truc là ça fonctionne plus bien.
Tu pourrais décrire une de ces méthodes agiles ?
Ouais, complètement.
Comme le Scrum par exemple ou je sais.
Alors ce qui est Scrum en gros c'est plutôt que de faire un plan sur 6 mois, c'est-à-dire qu'on va faire un logiciel on va faire un plan de l'ensemble du logiciel à l'instant T0 et puis on donne ça à une équipe de développement qui va à partir de ce plan là réaliser le logiciel, ce qu'on appelle les spécifications et elle livre en gros 6 mois après 6 mois de développement elle livre le logiciel et là ça correspond pas à ce que voulait vraiment le client.
C'est embêtant,
c'est beaucoup d'énergie et d'argent perdu aussi pour les entreprises. Donc le ce qu'ils ont un cadre Scrum, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à plutôt que de faire un plan sur 6 mois, on va faire un plan sur 6 mois mais très macro, donner une vision en fait, qu'est-ce qu'on veut obtenir, à quels besoins ça répond, qui sont les utilisateurs. Et puis ensuite on va faire des plans un peu plus détaillés mais sur 2 semaines. Et on fait le but des 2 premières semaines par exemple d'un développement, c'est de donner à voir un premier tout petit bout du produit logiciel qu'on est en train d'essayer de développer, de donner à voir aux futurs utilisateurs, aux clients, à ceux qui pourront dire à la fin si c'est OK ou pas, et de laisser réagir, manipuler, ils réagissent, et puis ils nous disent OK, c'est ce qu'il me faut, ou alors, au contraire, on s'est pas bien compris là-dessus. On se plante pareil, hein, sauf qu'on se plante plus vite. Et donc, au bout de 2 semaines, on sait qu'on s'est pas compris. Et on sait sur quoi on s'est pas compris, on sait ajuster le reste à faire. Et comme on n'a pas travaillé sur le détail de tout, c'est pas grave. On va détailler le détail des prochaines 2 semaines et puis on réessaye et puis petit à petit on commence à se comprendre et puis à faire le bon logiciel.
C'est un peu la méthode des petits pas en fait, c'est revenir aux petits pas même si on a un but qui est la visée qu'on a où nous mènent nos petits pas.
Exactement.
Et donc c'est une méthode qui apprend à s'adapter, à observer plus son environnement, à s'adapter plus vite. J'aime beaucoup ta phrase « on se plante pareil, mais on se plante plus vite ».
Ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant dans la démarche de l'agilité, c'est que cette méthode-là, ces cadres-là comme Scrum, ça a été créé par des personnes, des équipes qui essayent et qui constatent si ça fonctionne ou pas. Et en 2001, ces méthodes existaient déjà depuis un petit moment. Il y a 17 experts qui se retrouvaient régulièrement dans les conférences partout dans le monde, qui ont créé des méthodes comme Extreme Programming, Scrum, Kanban, etc. Enfin, qui semblaient fonctionner et qui semblaient aussi avoir des principes communs de fonctionnement. Ils se sont dit, ces experts-là, est-ce qu'on pourrait pas se retrouver deux jours quelque part pour essayer de voir ce qu'il y a en commun dans nos approches. Et c'est en 2001, donc ils ont fait ça dans l'Utah. Ils se sont retrouvés pendant 2 jours et ils ont sorti ce qu'on appelle aujourd'hui qui fait encore référence, qu'on appelle le manifeste agile et qui définit ce qu'est l'agilité. Et dans ce manifeste, on trouve 4 grands principes et 12 sous-principes qui permettent de, enfin, en gros, sur le thème, c'est sur quoi on est d'accord. Qui fonctionnent pour faire de bons produits logiciels.
Et sont quoi ces 4 grands principes ?
Alors les 4 grands principes, c'est ça qui est intéressant, c'est par l'usage en fait, par la pratique, on s'est rendu compte, et on est tous d'accord, nous 17 experts là, qui nous réunissons, pour dire que pour faire des bons produits logiciels, ce qui est important avant tout, c'est les hommes et les interactions, plus que les processus et les outils. Ça, c'est le premier. Enfin, ça, c'est une petite révolution dans le monde du développement logiciel où les processus et les outils sont fortement ancrés dans la culture. Il y a un deuxième, enfin, dans les 3 autres principes, il y en a un particulièrement qui parle un peu de ce qu'on vient de se dire. C'est pour faire de bons produits logiciels, il faut d'abord se mettre en mesure de réagir au changement plus que d'être capable de suivre un plan établi. Là, on est complètement dans
ça
cette
veut
démarche.
Dire, c'est un changement de culture total pour les gens qui travaillent au sein, parce qu'ils ont une méthode de pensée, ils ont une qui les a toujours servis jusqu'ici, même s'ils ont été enfouis sous leur process. Oui. Et là, ça veut dire une remise en question profonde de ces valeurs de base, quoi. C'est une révolution dans ce milieu-là.
C'est une vraie révolution, d'autant qu'on est encore dans la plupart des entreprises dans une démarche de plus deux.
Rentre en clash, tu veux dire, avec le client des fois ?
Ça rentre en clash avec le client qui, lui, ça pose plein de questions. Comment on écrit des contrats dans ces conditions ?
Oui.
Ça, c'est un troisième principe, c'est qui dit pour faire des bons produits logiciels, il faut d'abord, avant tout, établir une relation de collaboration avec le client plus que. Que suivre un contrat, enfin que respecter un contrat. Puis il y en a, enfin pour finir sur
le
les principes.
Quatrième,
ouais. Ouais, le dernier, c'est ce qui compte avant tout, c'est le produit logiciel lui-même plus que toute documentation. Alors, ça veut pas dire faut pas écrire de documentation, mais ce qui est important, c'est le produit, c'est montrer quelque chose, faire manipuler. C'est là qu'on a un vrai feedback, qu'on apprend vraiment quelque chose et qu'on a un vrai élément de suivi de l'avancement. Tout ce qu'on peut écrire en doc, prototype, ça donne pas grand-chose. Ceci dit, on écrit de la doc, mais on réfléchit à chaque fois qu'on écrit une doc, à quoi elle va servir, à qui, comment on la maintient, comment on la fait vivre. Voilà les 4 grands principes.
Ce que je trouve étonnant, c'est que je pensais en fait, en parlant avec toi, qu'on allait apprendre sur les méthodes agiles et comment elles peuvent s'appliquer, comment on peut les utiliser. Et en fait, en t'écoutant, je me dis que peut-être que ce qui ressort de ce processus, ce sont des méthodes, oui, c'est intéressant, mais ce qui me paraît encore plus fou, c'est ce que ça montre comme exemple de pouvoir prendre du recul sur soi, observer ce qu'on fait, apprendre de ses erreurs ou de ses échecs que tu as mentionnés, et de se remettre radicalement en question pour évoluer. Et en fin de compte, j'ai l'impression que c'est presque la méthode agile la plus impressionnante, c'est celle-ci, quoi.
Complètement. En plus, comme dans tout changement, on est issu de toutes les méthodes, ce qu'on dit prédictives, en V, ont donné d'énormes succès. On sort d'une période, on a créé de superbes logiciels avec une méthode très prédictive. On fait des plans, on livre. Les logiciels dont je parlais tout à l'heure, les suites Office, etc., ont été créés comme ça. Windows aussi, etc. Donc, c'est très difficile de remettre en cause tout ça. Après, dans ce milieu-là, on a quand même une culture de ça bouge tout le temps en termes de technique. Il y a peut-être dans ce monde-là une particularité qui est plus enclin au changement. En tout cas, ça, c'est plus dans l'habitude. Il y a tellement d'évolution technique qu'on est quand même dedans assez régulièrement.
Oui, mais tu vois, l'évolution technique, elle est en dehors de toi. Là, c'est un changement personnel. C'est ce qui est le plus compliqué. Se remettre en question et évoluer en si peu de temps, c'est moi, je trouve ça assez fou, quoi.
Oui, alors l'évolution, enfin le changement, il n'est pas terminé.
Ouais,
personnellement, moi j'ai fait le switch, mais il y a encore pas mal d'équipes qui n'ont pas fini ce changement-là, qui n'ont pas. Aujourd'hui, en gros, dans le milieu du développement logiciel, dire qu'on n'est pas agile, c'est un peu dire qu'on est impotent. Au-delà des mots, il y a quand même encore beaucoup d'équipes qui sont dans l'ancien système, on va dire.
Donc ces méthodes agiles aujourd'hui, elles sont applicables à d'autres pans de l'économie ou d'autres entreprises que le milieu informatique?
Oui, complètement, parce que la complexité qui est à l'origine de cette mutation-là, c'est vrai pour tous les domaines en fait. La complexité augmente, enfin, on voit en termes de... Quand on a une bonne idée aujourd'hui, elle est plus bonne 3 mois après, tout change très vite, il y a de plus en plus de concurrence, il y a de plus en plus de changements législatifs, hein, il y a aussi une complexité d'un point de vue des hommes, enfin, il y a une évolution de la société aussi qui demande d'autres choses dans le monde du travail. Et donc, bah, ça, c'est ce constat-là qui a été fait dans le milieu du développement logiciel, il est aujourd'hui général.
Oui, mais si tu appliques une de ces méthodes qui a été créée au sein du mouvement logiciel sur une entreprise, si cette entreprise ou si les équipes au sein de cette entreprise n'ont pas la même capacité que vous à évoluer, c'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est que ces méthodes, vous allez les appliquer à un milieu. Si elles ne vivent pas, si elles ne sont pas vivantes, est-ce qu'elles ne peuvent pas devenir un carcan pour les équipes en entreprise ?
Alors, on n'applique pas une méthode comme Scrum dans une entreprise. D'ailleurs, on n'applique pas une méthode comme Scrum d'une équipe de développement logiciel à une autre. On n'applique pas telle quelle. C'est-à-dire que c'est énormément de... On s'appuie sur les principes qui sont sous-jacents, et puis les pratiques évidemment, mais pour mettre en place un cadre de travail qui va correspondre aux enjeux d'une équipe, à sa culture, son histoire, ce qu'elle a déjà pratiqué ou pas. Enfin voilà, donc c'est déjà un énorme... Enfin, nous, quand on accompagne 10 équipes de développement logiciel, on crée 10 cadres de travail différents avec eux en fait.
Mais est-ce que ça leur donne de l'autonomie ? C'est-à-dire qu'une fois que la méthode est posée, que tu l'as adaptée au groupe chez qui tu es venu la poser, est-ce qu'ils vont savoir fabriquer leur propre méthode ? Est-ce qu'ils sont toujours accompagnés ou ça nous emmène vers de l'autonomie ?
C'est un des points clés de ces équipes. On parle d'auto-organisation, d'équipe auto-organisée. Dans les rôles décrits par Scrum, par exemple, il n'y a pas de rôle hiérarchique. Il y a des leaderships distribués, en fait. Il y a un leadership côté produit, qu'on appelle le product owner, par exemple. Il y a un leadership côté organisation, qu'on appelle le Scrum Master, qui est garant du fonctionnement, de la fluidité des interactions entre les personnes. Et puis il y a le rôle du développeur, de l'équipe de développement qui elle aussi a des responsabilités en termes de qualité, etc. Donc il y a des rituels. Et parmi les rituels, il y en a un qui est clé, et celui-là on n'y déroge pas en fait, quel que soit le contexte. C'est ce qu'on appelle les rétrospectives, qui est un moment. Par exemple, si on travaille toutes les 2 semaines, c'est une heure toutes les 2 semaines pour se retourner vers les 2 semaines qui viennent de se passer et dire qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qu'on a bien fait, quels sont les irritants, les cailloux dans la chaussure, les trucs qui nous irritent un petit peu, qu'on pense qu'on pourrait améliorer, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que le prochain cycle de 2 semaines soit plus efficace ou plus nous corresponde mieux que ce qui vient de se passer. Et ben ça, en fait, appliqué à n'importe quelle équipe, cadre, même en dehors des projets, en fait, à partir du moment où il y a une équipe, on pourrait même le faire tout seul. Ça apporte cette capacité en tant qu'équipe à s'adapter et à créer son propre mode de fonctionnement au fil de l'eau. Et nous, en termes d'accompagnement, alors il y a une marche à passer au départ, il y a une espèce de changement d'état d'esprit à produire, donc on a un accompagnement qui est assez intensif au départ, mais ça se déroule sur 2 semaines, on va dire, et même pas tous les jours, et après c'est plus dilué dans le temps, et nous on s'écarte assez rapidement en fait, on passe la main assez rapidement à des personnes de l'équipe pour prendre notre rôle et continuer le changement dans l'équipe en fait.
Comment tu fais en si peu de temps pour induire et engager les gens dans le changement ainsi ?
Comment on fait les étapes
pas forcément les étapes. Je sais à quel point, à titre individuel, c'est dur de changer. Alors, changer une organisation, et je vois, j'ai aussi des clients qui viennent tout le temps avec cette thématique du changement, quoi. On dirait que tout le monde, toutes les grosses entreprises sont en train de morpher actuellement. Et donc, à venir et induire un changement de mentalité n'est pas... pas chose facile. Quand tu en parles, là, on a l'impression que tu arrives, hop, tu prends 2 semaines pour embarquer les gens, mais... Ah bon, comment ?
Ah oui, alors déjà, il y a une particularité, c'est que nous, on ne travaille pas directement sur toute l'organisation. même si de plus en plus on recale notre intervention dans une démarche plus globale, mais on intervient sur de manière assez focalisée sur une équipe qui a envie de changer déjà. Ce qui est la première étape du changement, c'est donc elle a pris conscience qu'elle avait besoin de changer et elle a envie de changer. Donc c'est les deux premières étapes que si on les qui sont déjà pas faciles à obtenir. Donc on arrive déjà dans un cadre favorable. Je parle du cas nominal, on va dire. Il y a d'autres cas, évidemment, mais on est dans le cas nominal où, effectivement, on va pouvoir provoquer un changement assez rapidement. Ensuite, on a un petit nombre de personnes, une équipe de projet, logiciel ou pas, d'ailleurs. Enfin, les équipes à qui on intervient, c'est l'ordre d'idée, c'est moins de 10. Et donc, avec moins de 10, avec des personnes qui ont envie. Donc, à partir de là, on réfléchit avec eux à... Alors, une des clés, quand même, c'est d'impliquer très fortement les personnes dans le dessin de leur fonctionnement. Donc nous, on fait surtout de la facilitation en amenant évidemment des pratiques, mais on amène les équipes à créer eux-mêmes leur fonctionnement pour répondre et toujours corrélé à des objectifs, à des enjeux, enfin des enjeux qu'ils formulent eux, à leurs propres critères de succès. Et voilà, du coup, on crée une version. L'idée, c'est de créer, en plus de casser un petit peu la peur de... la peur d'aller vers autre chose, c'est de dire on va essayer quelque chose. On va créer une version 0.1 de notre cadre de travail et qu'on fera évoluer au fil du temps. Si y a un truc qui ne nous convient pas, on a cette fameuse rétrospective pour le modifier toutes les deux semaines. Donc c'est pas ça casse un peu cette peur-là de « Ouh là là, on va tout changer notre fonctionnement, comment je vais m'y retrouver là-dedans ?» Donc voilà, donc petite équipe, petit pas, comme tu disais tout à l'heure, et puis la possibilité d'adapter, qui fait qu'on se lance assez facilement. Après, il peut y avoir des réticences, mais un de nos principes, c'est de faire avec les personnes qui ont envie, et puis de ne pas forcer la main à ceux qui ont moins envie. Et en général, ces personnes-là comprennent et s'y retrouvent, en fait, dans ce changement-là.
On arrive à la fin des 20 minutes qu'on a pour discuter de ce sujet. C'est dommage parce que j'ai plein de questions qui me viennent. Mais bon, c'est la règle. Et puis, je ferai juste une remarque. Quand je t'écoutais parler tout le long de l'interview, j'ai l'impression qu'il y a une imagerie qui est prise. Par exemple, je voyais Star Wars, c'est-à-dire il y a quelque chose de l'ordre... il y a une forme de jeu, de hausse, d'aventure, avec des codes bien marqués, des mots, un vocabulaire qu'on retrouverait si on allait dans ces gros romans de fantasy là, où ils ont des mots particuliers, des noms pour chaque chose. Et j'ai l'impression que c'est voisin, là, qu'on sent que cousin, ouais. il y a toute cette imagerie, tout ce monde du fantastique, quoi.
Dans le changement vécu par Scrum, par exemple, ils ont trouvé nécessaire de changer toutes les appellations dans les rôles, dans les réunions qu'ils ont plutôt appelé cérémonie ou rituel.
Ouais, voilà,
pour casser l'ensemble de ce qui était des préconçus, des mauvaises habitudes qu'on avait prises. Donc c'est marqué le changement. En fait, c'est aussi un changement de vocabulaire.
Oui, puis il y a une forme de jeu, une forme de romance qui est racontée, je trouve, à travers ces méthodes. C'est étonnant.
C'est vrai qu'il y a l'univers. Ouais.
Ok, alors est-ce que tu es prêt pour le questionnaire qui est commun à toutes les interviews et au travers duquel tu vas passer maintenant?
Je suis prêt.
Tu vois, moi aussi, j'ai mes petits rituels. Mes petits... alors, j'aimerais savoir, et en plus, c'est bien parce que tu t'en as parlé, on se plante plus rapidement. Est-ce que dans ta vie personnelle ou professionnelle, il y a une erreur ou un échec qui t'a fait grandir particulièrement?
Ouais, c'est... Ma pire erreur, c'était sur une période, et c'est lié à ma prise de conscience quand j'ai découvert l'univers de l'agilité. L'erreur que j'ai faite, c'est de penser que les problèmes venaient de l'extérieur. C'était là où j'en étais au moment où j'ai découvert l'agilité. Que les problèmes venaient de l'extérieur, c'est en gros, comme tout le monde, j'avais des problèmes en tant que directeur de la plateforme de développement sur laquelle j'évoluais, de gestion de projet. Mais j'étais dans une démarche de chercher l'outil qui allait répondre à mes problèmes, Les problèmes qui venaient de l'extérieur, c'était les clients qui savent pas ce qu'ils veulent, mon boss à Paris qui est déconnecté de la réalité, etc., etc. Mes collègues, etc. À partir de cette, enfin de ce constat-là, l'agilité m'a fait prendre conscience que, en fait, je pouvais agir à mon niveau sur ce sur quoi j'avais prise. Et au-delà, enfin après cette prise de conscience, quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte que bouger moi-même, ça faisait bouger le monde autour de moi. Et à partir de ça, c'est une autre posture, c'est un cycle sans fin en fait. Il y a un truc qui nous va pas, on bouge et on réfléchit à comment on peut bouger et effectivement ça bouge autour de soi. Il y a des réactions d'une manière ou d'une autre. Si ça bouge pas de la bonne manière, on change notre manière de bouger et puis on continue comme ça.
Mais comment t'as réalisé ça ?
J'ai réalisé ça en j'ai fait une formation Scrum Master de 2 jours en 2008 et François Beauregard qui était le formateur à l'époque qui a créé Pixis au Québec au début des années 2000, donc on était un précurseur de l'agilité. On a commencé à faire un tour de table et puis j'ai fait on se présentait et puis moi j'ai fait le constat de les clients, je bougonnais. Les clients, mon boss, les outils, etc. Il m'a laissé dire, et puis tout le monde s'est présenté. Puis il a commencé les 2 jours en disant bon, si on pouvait définir l'agilité en une phrase, c'est arrêter de se plaindre et commencer à agir sur ce sur quoi on peut agir. J'ai su que c'était pour moi là. C'était une petite claque, mais c'était la bonne claque au bon moment pour moi et une vraie prise de conscience. Et j'ai savouré ces 2 jours, c'était génial, une vraie découverte pour moi. Et un autre univers qui s'est ouvert à moi à la suite de ça.
Ça amène à la question d'après qui est quelle technique ou outil t'as le plus fait avancer personnellement ou professionnellement ?
Alors s'il y en avait un, alors, il y en a plein du coup, parce que du coup quand on est dans cette démarche, on essaie plein de choses et on découvre plein de choses et c'est un univers infini. Mais s'il y en avait un que je devais choisir, c'est la facilitation graphique. C'est très étonnant dans ce milieu, enfin dans ce monde-là. C'est un truc que j'aurais jamais pensé développer quand j'ai créé Agile Garden au départ. Donc la facilitation graphique, pour en dire 2 mots, c'est le fait de visualiser une oralité. En gros, pendant une réunion, on prend un paperboard et puis c'est un mix de dessins et de dessins très simples. Il n'y a aucun talent de dessinateur derrière ça. Des dessins très simples, des choses bien écrites, des idées regroupées dans des nuages, des cadres, enfin voilà, des titres un peu travaillés. Et pourquoi c'est un bon outil. Déjà, moi, je suis très visuel. Et le besoin de cet outil-là, j'ai fait une formation à un moment, chercher un sujet de formation sur ce thème-là, un peu en exploration. Et le besoin que j'avais à ce moment-là, c'est qu'on arrête de tourner en rond dans les réunions, quand on a l'impression d'être d'accord, un quart d'heure après, on n'a pas tout à fait compris la même chose de ce qu'on a dit précédemment, et on revient, on boucle sur des sujets comme ça. Donc un besoin d'efficacité, puis aussi, alors j'avais commencé à donner à voir avant de faire cette formation, mais et aussi un besoin de tiens, si on pouvait faire un truc assez visuellement clair et impactant pour pouvoir à la fin le prendre en photo, qu'on a envie de le prendre en photo et qu'on évite les comptes rendus aussi faits par une personne qui est sa vision à elle de ce qui s'est dit, un truc sur lequel on pourrait se mettre d'accord à la fin de la réunion, tout le monde a compris ça, ouais ok, on prend en photo et puis on n'a pas besoin de faire de compte rendu. Et si en plus ça pouvait valoriser notre image d'entreprise Agile Garden d'accompagnant. Donc j'ai développé ça et ça m'a ouvert un univers fantastique. Aujourd'hui, je l'utilise, ça m'aide à résoudre des problèmes, ça m'aide à développer mon écoute, ma compréhension des choses, ça m'aide à parler de moi, est-ce que je comprends une situation, ça m'aide à...
Faire la synthèse, oui.
Et aussi à provoquer le changement, parce que dessiner en entreprise, c'est quelque chose ça fait partie des choses interdites, entre guillemets. Donc voilà, c'est un univers qui est énorme. J'utilise aussi avec mes enfants en perso. Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté et qui m'apporte encore beaucoup aujourd'hui.
Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager ?
Aujourd'hui, pour être un bon manager, c'est la qualité numéro 1 pour moi, c'est l'écoute. Mais enfin, l'écoute, c'est un peu ce que tout le monde dit, mais enfin, une certaine forme d'écoute. C'est-à-dire une écoute, vraiment, c'est l'écoute globale, une écoute holistique, enfin, quelque chose qui, cette espèce de compréhension globale de ce qui se passe au sein d'une équipe, des individus, des relations entre eux, cette espèce de ressenti global qui permet de comprendre les choses et de prendre les bonnes décisions pour aider à ce que la systémique d'une équipe fonctionne au mieux.
Quel livre conseillerais-tu pour devenir un meilleur manager ?
Les ouvrages, il y en a deux en fait. Il y en a deux principaux que je conseille. Alors, il y en a un qui est en anglais, qui est un peu obtus. Il fait 300 pages. Moi, j'ai mis un an à le lire. Donc, ça s'appelle Management 3.0. Mais c'est aussi c'est écrit par Jürgen Apello, qui a aussi un site internet, un blog assez fourni. Et nous, on fait aussi des formations de deux jours là-dessus. Donc, ça permet de découvrir cet univers-là. Ça décrit ce qu'est le management agile. Si on pouvait décrire le management agile, ben voilà, tout est dans ce bouquin. Il est vraiment très bien fait. C'est un agrégat d'études scientifiques et de pratiques et d'expériences d'un manager agile que Jürgen Apello est. Il y a celui-là, donc ça c'est vraiment très. Du coup, on a vraiment des choses très pratiques pour commencer à changer son mode de management. Et il y en a un autre qui est plus dans la mouvance. Entreprise libérée. Ça te parle ça, Johanna ?
Ouais. Oui, bien sûr.
Il se revendique pas, je pense, du mouvement Entreprise libérée d'Isaac Gates. Il s'appelle Frédéric Laloux. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Reinventing Organizations. Donc il est français, il a écrit la première version en anglais, mais il l'a traduit récemment en français. Et c'est vraiment un bouquin qui a étudié quelques entreprises qui ont vraiment fait un virage très important dans la manière de s'organiser et qui a sorti de ça en fait toutes les pratiques émergentes, les principes de fonctionnement qui peut dégager à partir de l'observation de ces équipes-là. Et c'est super riche, c'est vraiment bien fait. Et il y a, par rapport à ce bouquin-là, il y a aussi une vidéo qui permet de parcourir en moins de temps le contenu de ce bouquin qui dure 1h30. Donc si on cherche Reinventing Organizations, on tombe assez facilement sur cette vidéo qui est une conférence de Frédéric Laloux sur ce sujet.
Je mettrai le lien dans la description du podcast. Et dernière question, qui n'est pas une question, est-ce qu'il y a une citation qui pourrait inspirante pour toi ?
Ouais, quand tu m'as posé la question là en préparation, j'étais en train d'imprimer mon diplôme parce que je vais faire de la formation dans une école.
Et tu veux dire professeur ?
Je suis déjà, mais c'est une autre école. Et donc il me demandait mon diplôme. Alors ça c'est marrant d'ailleurs.
Le mien, je l'ai perdu. Il est entre deux ambassades. Il me courait après. Je l'ai jamais récupéré. Donc je pourrais jamais prouver à qui que ce soit que j'ai mes diplômes. Quoi.
J'ai eu un peu de mal à le retrouver, mais finalement j'ai mis la main dessus. Et dans cette école, ça s'appelle Euseo. J'ai fait une école d'ingénieur à Angers. La devise de l'école, c'était il faut travailler dans le présent comme si l'on revenait de l'avenir. J'étais pas très bon élève et ça m'a des fois mis un petit coup de pied aux fesses. Mais aujourd'hui, ça.
T'étais pas bon élève et tu es doublement professeur.
Pour être un bon professeur, faut avoir été mauvais élève.
Ah, c'est une nouvelle théorie.
Parce qu'on est à même de comprendre ceux qui ont plus de mal à apprendre. Et donc sa citation aujourd'hui, moi je me la réapproprierai un petit peu et je dirais plutôt il faut vivre dans le présent comme si l'on revenait de l'avenir. C'est et en gros, le travail c'est une partie quand même assez conséquente de la vie et il n'y a pas de raison si on revenait de l'avenir, on pourrait regretter d'avoir été des années dans un univers dans son travail. Sans s'être épanoui, sans avoir révélé ses talents, sans avoir pris du plaisir au quotidien dans ces moments-là. Et donc, c'est ce qu'on essaie de produire déjà pour nous dans notre travail. Et ça, je pense qu'on y arrive bien aujourd'hui. Et ce qu'on essaie de partager aussi avec les équipes qu'on accompagne. Et aussi les managers.
Génial. Comment on te retrouve sur Internet, Pierrick ? Tu as un site internet, celui de Agile Garden peut-être ?
Ouais, celui d'Agile Garden, je suis en réflexion pour créer un blog perso, parce que j'ai des choses que j'aimerais bien publier, plus perso, mais oui, pour l'instant sur Agile Garden, on publie assez régulièrement des choses, et puis il y a des liens vers ce qu'on peut produire par ailleurs, conférences, interviews, comme celle-ci, on va le mettre sur le site, bien sûr. Et voilà, en gros, pour l'instant, c'est Agile Garden. Et après, sur Twitter, mon pseudo, c'est @curvette, K-E-U-R-V-E-T.
Curvette, un peu comme une crevette, mais...
C'est ça. C'est une histoire un peu perso.
Oh là là, je sais, il y a des trucs à fouiller, là. Mais bon, on va rester discret. En tout cas, merci beaucoup, parce que c'est un monde... Moi, j'aime bien aller... à la croisée de ces mondes, c'est-à-dire qui peuvent paraître fermés, et puis en fin de compte, chacun sort une particularité. En tant que groupe, on sort des particularités qui peuvent servir aux autres. Et là, je trouve que la révolution, la mutation qui se passe avec l'agilité, elle est vraiment très intéressante. Donc merci d'avoir partagé, d'avoir pris le temps.
Merci à toi.
Et nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je passe le podcast de Moodstep en rythme hebdomadaire. Je publierai tous les mercredis un épisode d'environ 30 minutes que vous pouvez retrouver sur iTunes ou sur le site de Moodstep, moodstep.com. Je prends un vrai plaisir à faire ces entretiens. Et je voulais aussi vous remercier car la semaine dernière, sûrement suite à l'envoi de ma newsletter, mais... le podcast de Moodstep est arrivé en deuxième position du classement économie et entreprise, avec derrière Tim Ferriss et les émissions de BFM. Donc un grand merci à vous tous et j'espère vous retrouver très bientôt. Bonne journée.